gloire à Dieu.
Acclamons le Seigneur. Poussons un cri de joie. Gloire à Dieu.
Prenez place, s'il vous plaît.
Vous me supportez encore un petit moment?
Tu m'appelles.
J'aimerais vous encourager, mes frères et sœurs. Faites couler la vie de Dieu au travers de vous. Qu'est-ce que ça veut dire? Quand Jésus dit, j'ai mentionné ce verset, Matthieu, Jean 7, 38, Jésus dit, si quelqu'un a soif, qu'il vienne et qu'il boive. Et ensuite, il dit, celui qui croit en moi. Est-ce qu'il y en a qui croient en lui? Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive vont couler de son sein. Ça veut dire quoi en français courant? Est-ce que c'est juste un truc spirituel? Ça veut dire quoi? Des fleuves d'eau vive couleront de son sein. Je vais développer un tout petit peu ça. C'est là. J'étais en train de méditer la parole de Dieu et je dis, Seigneur, je veux prêcher sur ce texte. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de ses seins. J'ai dit, Seigneur, ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire quoi? J'ai dit, Seigneur, je ne comprends pas. Des fleuves d'eau vive couleront au travers de nous. Comme je l'ai dit tout à l'heure, au travers de concours de circonstances, je ne vais pas vous raconter toute mon histoire, mais au travers de concours de circonstances, je suis devenu fermier. Plus tard, pasteur, j'ai fait 20 ans dans ma profession, dans ma première profession, j'étais 20 ans à plein temps dans le ministère, j'étais dans le ministère plus tôt déjà, mais pas à plein temps. Et puis le Seigneur m'a dit, quand tu étais fermier, qu'est-ce que tu donnais à manger à ton bétail? J'ai dit, Seigneur, quelle question. Aux vaches, on leur donne à manger de l'herbe. Quand il n'y a pas d'herbe dans la prairie, on leur donne du foin. Et puis ensuite, Seigneur m'a dit, quand tu traites la vache, qu'est-ce que tu attends à avoir? Ben, Seigneur, j'attends à avoir du lait. Que si tu traites une vache, puis que quand au pire, il y a de l'herbe ou du foin qui sort, c'est quelque chose qui ne va pas, hein? Vous la mettez à la boucherie tout de suite, le même jour, cette vache-là. Je dis, Seigneur, ça, je savais déjà. Le Seigneur m'a dit, tu vois, la vache, elle est capable de transformer de l'herbe en lait. Puis j'avais ma montre sur mon bureau. Le Seigneur m'a dit, regarde ta montre. Je dis, oui, je la connais, ma montre. Le Seigneur m'a dit, tu vois, il y a un artisan qui a transformé un peu de métal, un peu de verre, et il a fait une montre qui fonctionne à la seconde près. Je dis, oh, c'est pas mal. Je dis, Seigneur, qu'est-ce que tu veux me dire au travers de cela? Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront au travers de son sein. Je dis, ça veut dire quoi, Seigneur? Le Seigneur m'a dit, ça veut dire que je m'attends à ce que mes enfants transforment ce que je leur donne. Ah, je dis, Seigneur, qu'est-ce que tu nous donnes à transformer? Dieu nous donne deux choses que nous devrions transformer en source d'eau vive. Quand la Bible parle de l'eau vive, elle ne parle pas de l'eau H2O, hein? La flotte. Elle parle de quelque chose de divin. Et Dieu me dit, tu vois, j'ai donné à mon peuple ma parole, mes promesses. J'aurais donné mon esprit. Et j'aimerais que mon esprit en eux, j'aimerais que ma parole en eux se transforme en quelque chose qui va donner la vie. Tu es capable, mon frère, ma sœur, de transformer ce que Dieu t'a donné en une parole qui va engendrer la vie. Et j'ai dit à mes paroissiens, j'ai un souhait, j'aimerais que nous ayons le meilleur coefficient de transformation possible. Le meilleur coefficient de transformation. Dans le bétail, quand on fait de la production laitière, on cherche à avoir le meilleur coefficient de transformation. Si une vache avec 30 kg de matière sèche par jour est capable de nous faire 5 litres de lait ou 50 litres de lait, c'est pas la même chose. Aujourd'hui, on a des vaches qui font jusqu'à 50 litres de lait par jour. Parce qu'elle a fait de la sélection, elle a cherché à avoir le meilleur coefficient de transformation. C'est quand même moins coûteux de nourrir une vache avec 30 kg de matière sèche, un tout petit peu d'autres, enfin 30 kg de matière sèche, et qu'elle produit 50 litres, que de nourrir 10 vaches qui produisent 5 litres. Dieu aimerait, mon frère, ma sœur, que tu aies le meilleur coefficient de transformation de ce que Dieu a mis en toi pour que ça jaillisse au travers de toi. Et tu as besoin du Saint-Esprit, mais le Saint-Esprit, il est là. Il est avec toi. Entretiens la relation avec lui, parle avec lui. Dis-lui que tu as besoin de son conseil, dis-lui que tu as besoin de son aide. Il va t'aider. Il ne va pas t'aider, comme je l'ai dit tout à l'heure. Il ne t'aide pas juste dans les choses spirituelles. Il ne t'aide pas juste quand tu vas à l'église, quand tu lis ta Bible et tu pries. Il t'aide aussi dans toutes les autres choses. Quand le Saint-Esprit vient en nous, nous habiter. Et il est là. Il est en vous, mes frères et sœurs. Je vous ai dit tout à l'heure, vous êtes habités par quelque chose qui est plus grand que vous-même. Hein, l'histoire du petit âne qui a cru qu'il était devenu célèbre. Puis la maman lui a dit, non, c'est Jésus qui était assis sur ton dos. C'est lui qu'ils ont acclamé, c'est pas toi. Parfois on croit qu'on est devenu célèbre. Mais on s'en fiche. Ce qui est important, c'est que Jésus soit glorifié. C'est lui que nous voulons porter. Quand le Saint-Esprit vient en nous, il y a deux choses qui devraient se produire. La première, c'est que nous devrions commencer à avoir une expression différente. C'est que le Saint-Esprit devrait passer au travers de toi. C'est que tu devrais commencer à exercer les dons spirituels. Et en particulier, la prophétie. Je dis un, deux mots, il fallait toute une après-midi rien que pour enseigner sur ces choses-là, mais je veux dire juste quelques mots, je donne quelques pistes centrales. Dans 1 Corinthiens 12, l'apôtre Paul mentionne 9 dons de l'esprit. Entre versets 6 et 9 ou 11. 9 dons de l'esprit. Chapitre 13, l'apôtre Paul donne ce qui doit être notre motivation pour l'exercice des dons spirituels. Chapitre 13, c'est un chapitre sur l'amour, et il dit, si tu n'as pas l'amour, ça ne sert à rien. Tu peux parler le langage des anges, tu peux déplacer les montagnes, mais si tu n'as pas l'amour, zéro. Donc il faut que notre motivation de dire, Seigneur, on veut que l'amour, ta présence soit en nous. Mais au chapitre 14, il commence de la manière suivante, 1 Corinthiens 14. Le chapitre 14, il commence d'une façon très intéressante. L'apôtre dit, recherchez l'amour. Ok. Et ensuite il dit, aspirez aux dons spirituels. Est-ce que vous aspirez aux dons spirituels? Hello. Est-ce que vous aspirez aux dons spirituels? Le terme aspirer, il est très fort qui est utilisé ici. Ça veut dire que ça ne va pas se passer tout seul. L'enfant, le bébé qui se nourrit au sein de sa maman, il doit aspirer le lait. Il ne coule pas tout seul comme ça. Mais dès que l'enfant aspire, le lait commence à couler. Dès que tu commences à aspirer, la vie de l'Esprit de Dieu va commencer à se manifester au travers de toi. Alors il dit, recherchez l'amour, ça on est d'accord, Seigneur, tu es la source de l'amour. Hein, Romains 5, 5, l'amour de Dieu est déversé dans vos cœurs par le Saint-Esprit. Recherchez l'amour, aspirez aux dons spirituels. Et ensuite il dit quelque chose de très surprenant. Il dit, surtout à la prophétie. Pourquoi? Il a mentionné 9 dons. Et ici il dit que nous allons rechercher en premier lieu la prophétie. Est-ce que vous savez que nous sommes, que vous êtes, un peuple prophétique? Nous sommes un peuple prophétique. Apocalypse 19, 10 dit que le témoignage de Jésus, c'est l'esprit de la prophétie. Apocalypse 19, 10. Le témoignage de Jésus, c'est l'esprit de la prophétie. Pourquoi la prophétie? Pourquoi l'apôtre Paul met tout à coup la prophétie en évidence? Pour deux raisons, à mon avis. La première, c'est que tu ne peux pas prophétiser, c'est parler de la part de Dieu. Tu ne peux pas parler de la part de Dieu si tu n'as pas entendu. Et on n'entend habituellement pas ici. Vous comprenez? Beaucoup de gens disent, j'entends pas Dieu. J'ai dit, mais t'as pas besoin d'entendre la parole audible de Dieu. Dieu vient dans tes pensées. Quand le diable il veut te parler, il vient dans tes pensées. Quand il veut t'accuser, quand il veut te culpabiliser. Je crois que la première raison pour laquelle l'apôtre Paul dit que nous devons aspirer à la prophétie, c'est parce que cela nous oblige à apprendre à écouter la voix de l'Esprit-Saint. C'est la première raison. La deuxième raison, c'est que la prophétie est donnée pour encourager, pour édifier, pour consoler. 1 Corinthiens 14, verset 3, on a donné ce cadre, et c'est important de rester dans ce cadre de ce qu'est la prophétie à ce stade-là. Il y a d'autres niveaux, j'ai pas le temps d'enseigner sur l'ensemble de la prophétie, sinon il faut que j'ai un tableau, puis je vais commencer à enseigner avec plus de pertinence. Il veut que tu puisses devenir un instrument qui va encourager les autres, qui va parler dans la vie des autres. Est-ce que c'est compliqué? Quels sont ceux parmi vous qui ont déjà prophétisé? Je peux voir les mains? Quels sont ceux parmi vous qui ont déjà prophétisé? Waouh, très peu. Vous pouvez, la Bible dit, vous pouvez tous prophétiser. Oui, mais Seigneur, comment faire? Puis on risque de se tromper. Vous voulez que je vous donne une ou deux pistes? Vous risquez pas de faire trop de dégâts? Parce qu'on peut faire du dégât aussi, hein? Mais il ne faut pas avoir peur. Quels sont ceux qui ont une voiture ici? Il y en a quelques-uns qui ont des voitures? Les Parisiens. Oui, oui, il y en a qui ne lèvent pas la main, mais ils ont des voitures. On a des voitures, même si des fois on peut avoir un accident avec la voiture. Commencez à donner une expression au Saint-Esprit, même si parfois on peut faire quelque chose de faux, ça passe par un canal humain. La révélation de Dieu, elle est parfaite, mais le canal humain que je suis, il n'est pas parfait. Alors si tu veux un bon truc pour apprendre à prophétiser, où tu risques de personne faire du mal à personne, j'aimerais t'encourager à commencer à prophétiser sur ta propre vie. Parle toi-même sur ta propre vie. Quand c'est que tu as parlé toi-même sur ta propre vie? Quand tu es malade, tu fais quoi? Tu cours chez le médecin puis tu te lamentes? Ou est-ce que tu utilises la puissance de la parole? Le roi Salomon déjà, dans l'Ancien Testament, dans Proverbe 18, 21, Salomon dit, la vie et la mort sont au pouvoir de ta langue. Parle sur ta vie. Si tu es malade, attaque cette maladie. Tu dis à cette maladie, tu sors de mon corps. Ma destinée, c'est la santé. Mon héritage de Jésus-Christ, c'est la santé. Maladie, tu t'en vas de mon corps. Est-ce qu'elle part toujours tout de suite? Non. Est-ce que ça marche à tous les coups? Non. Mais il faut continuer de le faire. J'ai trop d'idées qui viennent de ma tête quand je prêche comme ça sans notes, alors ça part d'un peu de... Il faut continuer de le faire. Dans 2 Corinthiens 1. Verset 20. L'apôtre Paul dit, pour ce qui concerne toutes les promesses de Dieu, Dieu a dit oui. C'est quand même pas mal. Dieu a dit oui pour toutes ses promesses. Oui, mes seigneurs. Est-ce qu'il y en a qui ont déjà prié pour des malades ici? Honnêtement, quels sont ceux qui ont déjà prié pour des malades? Vous devriez tous prier pour des malades, mes frères et sœurs. Oui, mais bon, c'est dangereux, puis si ça ne marche pas, j'ai l'air bête. Tu veux apprendre ou tu ne veux pas apprendre? Dieu dit oui à toutes ses promesses. Mais la réalité, pour que les promesses de Dieu deviennent réelles dans nos vies, nous devons prendre possession. Quand Dieu a renvoyé Israël et sorti d'Égypte et rentré en Canaan, il y a eu un problème. Dieu leur avait dit, je vous donnerai ce pays en héritage. Ils ont eu quelques doutes. Et puis dans Nombre 13, 14... Dieu dit à Moïse, envoie 12 espions, un espion par tribu, aller espionner le pays de Canaan. Et ils reviennent. Ils reviennent avec deux témoignages. Le premier, c'est qu'effectivement, c'est un bon pays où coule le lait et le miel. Extraordinaire. C'est ce que Dieu leur avait dit. Mais ils viennent avec un deuxième témoignage, il dit, il y a un problème. Il y a des géants, il y a des villes fortifiées, on va se faire manger. Et au lieu de regarder la promesse de Dieu qui leur avait dit « Je te donnerai le pays en héritage », ils ont dit « Non, 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 nous on ne veut pas se faire manger là-bas. » Pourtant Dieu leur avait dit « Mais je serai avec vous, je vais vous donner la victoire. » Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont cru la mauvaise partie du témoignage. Ils ont oublié de regarder à la promesse de Dieu, un pays où coule le lait et le miel. Ils ont commencé à regarder aux géants. Ils ont dit, non, ils sont beaucoup trop grands pour nous. Nous, on préfère pas aller là-bas. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont restés 40 ans dans le désert. Et ils sont morts dans le désert. Tous ceux qui avaient 20 ans, plus de 20 ans sont morts dans le désert. Avec le désir de la terre promise. Mais c'est pas suffisant d'avoir le désir de la terre promise. Il faut en prendre possession. C'est pas suffisant de dire, oh Seigneur, merci beaucoup pour toutes tes promesses, mais tu dois prendre possession des promesses de Dieu. Et tu vas pas réussir à tous les coups. Il y a 2-3 ans en arrière, je suis arrivé dans un pays africain pour une conférence. Et je rencontre une personne dont j'ai entendu parler, que j'avais vue en image, mais je ne l'avais jamais rencontrée. Un homme très spécial. Il s'appelle David. Quelqu'un a entendu parler de David Hogan? Et je vois David, je dis, David, qu'est-ce que tu fais ici? Il me dit, je suis orateur dans cette conférence, comme toi. J'ai dit, David, viens t'asseoir à ma table, j'ai quelques questions à te poser. Comment tu fais pour ressusciter les morts? Il a ressuscité un peu plus de 500 morts. Des gens qui étaient morts, qui sont revenus à la vie. Alors je dis, David, moi je suis intéressé à ton histoire, raconte-moi comment on fait pour ressusciter les morts. Ça peut toujours être utile à l'occasion, non? Alors, vous voulez savoir ce qu'il m'a répondu? Vous aimeriez savoir comment on fait pour ressusciter les morts? Il m'a dit, number one. Il m'a dit, Werner, il faut apprendre à échouer, sinon tu ne peux pas réussir. Impossible. Mais si tu es d'accord d'apprendre à échouer, et quand tu as échoué, tu continues, et quand tu as échoué 10 fois, tu continues, et quand tu as échoué 50 fois, tu continues encore, tout à coup, le ciel s'ouvre. Et il a dit, les 140 premiers pour lesquels j'ai prié, il y en a très peu qui sont revenus. Mais après, presque ceux que j'ai commencé à appeler ont commencé à revenir. C'est la même chose dans la guérison, c'est la même chose dans l'aspect des miracles. Plus nous le faisons, plus nous aurons du succès. Vous savez, frères et sœurs, je pense qu'on est au même niveau avec l'évangélisation et la manifestation surnaturelle de Dieu. Au même niveau. Même si les gens ne se convertissent pas et n'accueillent pas le Christ dans leur vie, nous continuons de partager le témoignage de Jésus parce que nous savons que c'est la vérité de Dieu pour le salut de quiconque croit. Et nous devons faire la même chose avec l'aspect de la guérison. Je reviens à la prophétie. Prophétiser, c'est parler avec une partie de révélation qui n'est pas absolue, et ça commence avec quelque chose. Et beaucoup de gens savent juste pas comment ça commence. Moi, j'enseigne la prophétie à des étudiants, je leur dis, ok, je vais vous apprendre comment on prophétise. Parce que les gens savent pas. Et la problématique, c'est qu'on parle de ces dons spirituels dans l'église, mais personne montre comment il faut faire. Alors moi, je dis à mes étudiants, je vais vous montrer comment il faut faire. Parce qu'on est trop compliqué. On pense que c'est quelque chose de tellement élevé qu'il y a des gens hyper spirituels qui peuvent faire ça, mais les autres ne peuvent pas le faire. La Bible ne dit pas cela. La Bible dit, vous pouvez tous prophétiser. Prophétiser, c'est parler de la part de Dieu, si possible, avec un aspect de révélation. Et j'aimerais t'encourager à commencer à prophétiser sur ta propre vie. Il faut aller dans le lieu secret. Vous savez où est le lieu secret? Est-ce que quelqu'un sait où est le lieu secret? C'est écrit de Matthieu 6:6 où il est le lieu secret. Vous lirez Matthieu 6:6 et vous saurez où il faut aller. Rentre dans ta chambre, ferme la porte et Dieu qui est là dans le lieu secret. Et quand, vous savez, on a pris des mauvaises habitudes. Les chrétiens, ils ont un problème, ils disent, oh Seigneur, s'il te plaît, aide-moi un tout petit peu, Seigneur, si jamais t'as une petite minute pour moi, Seigneur, si tu pourrais m'aider, je sais que ça va pas changer grand-chose, mais Seigneur, ça pourrait m'aider un tout petit peu. Et quand vous avez fini de prier, vous mesurez 20 cm de moins qu'avant que vous avez commencé à prier. Parce qu'au lieu de vous être affermi, vous êtes affaibli. La parole de Dieu dit, fortifie-toi! Alors quand je prie pour les autres, ou j'intercède pour les autres, ou je fais du combat spirituel, et puis que je monte là un peu dans les hauteurs, selon Ephésiens 6, combattre les principautés, les pouvoirs, les dominations, les esprits méchants dans les lieux célestes, ça c'est une chose. Mais quand je... c'est pour moi-même. Je vais pas faire le mendiant devant Dieu. C'est mon Père. Donc j'utilise la puissance du langage et je parle sur ma vie et je me tiens debout et je marche dans ma chambre et je dis Seigneur merci parce que tu vas me donner la victoire, merci parce que tu vas augmenter ma force, merci par l'onction du Saint-Esprit vient sur moi et aujourd'hui tu vas me donner la capacité d'amener des choses nouvelles dans la vie des gens, tu vas me permettre de voir des prodiges, des miracles qui ont l'empreinte de ton doigt. Et vous savez, souvent Dieu nous utilise parfois quand on a le sentiment qu'on est le plus nul possible. Écoutez Dieu, parce que des fois c'est trop abstrait, tu dis, oh oui Dieu, mais je comprends pas. Alors tu dis, Dieu, parle-moi. Et puis il te parle de la contravention que tu as pris hier, là, parce que tu n'es pas parqué au bon endroit, la police t'a mis une, on vous dit contravention, mais comment on dit ici en France? Une amende? Amende d'ordre, ok. Alors t'as pensé qu'il vient de l'amende d'ordre, tu dis, non Seigneur, je ne vais pas penser à ça, j'aimerais une pensée du ciel, hein. Et puis après il y a autre chose, ton fils qui t'a énervé le matin parce qu'il était rebelle, etc. Tu dis, non Seigneur, pas ça. Puis après, plus rien, silence radio. Tu dis, Dieu ne me parle pas. Non, peut-être que Dieu aurait aimé te parler avec l'histoire de l'amende que tu as prise. Utilise les éléments que Dieu te donne, que tu pries. Quand je prie, je dis, Seigneur, parle-moi. Dieu nous parle différemment. Dieu n'utilise pas la même méthodologie pour chacun d'entre nous parce que nous sommes faits différemment. Moi, Dieu me parle en image. Quand je dis Dieu, parle-moi. Mais quand je suis avec des étudiants, ils ne savent pas prendre des images de Dieu. Alors je dis, vous amenez un objet. Alors prends par exemple cet objet. Puis dire, mais non, Seigneur, qu'est-ce que tu veux me dire? Ok, bon, c'est un porte-monnaie. Mais à partir de ce porte-monnaie, je peux commencer à prophétiser sur chacun d'entre vous. À partir de cette image, je vais construire une parole qui va t'exhorter, t'édifier, te consoler. Je vais utiliser un exemple et je vais parler sur ta vie, mon frère. Sur toi là. Quel est ton nom? Dominique? Ok. Alors je ne vais pas prophétiser que tu deviens riche, mais je vais prophétiser que Dieu va pourvoir à tes besoins. Qu'il y a plus de potentiel en toi que tu l'as imaginé jusqu'à aujourd'hui. Et que Dieu veut te remplir de ses richesses, des véritables richesses, dont celles dont Jésus parle dans Luc 16. La véritable richesse. Dieu a des choses en réserve. Je vois en toi une personne avec un bon cœur. Et je vois en toi un homme qui a faim et soif de plus. Et si tu continues à chercher Dieu, et c'est pas juste quelque chose de conditionnel, tu vas voir que les écluses des cieux vont s'ouvrir. Et ça sera bien plus que seulement juste des biens matériels. Il y a quelque chose de grand et de glorieux que Dieu a préparé pour toi. Je suis en train de prophétiser sur lui. Est-ce que ça fait mal? Non, ça t'encourage. Et le but c'est quoi? C'est que tu encourages quelqu'un d'autre. Demande à Dieu une image. Mais le Seigneur, peut-être qu'il te montre une image. Admettons par exemple, voilà une cuisinière. Hein? Vous êtes tous des cuisinières à la maison. Tu reçois l'image d'une cuisinière. Petit Seigneur, qu'est-ce que je pourrais lui dire? Mais Dieu va te donner la capacité de qu'est-ce qui s'est refroidi dans ta vie, va se réchauffer. Dieu va te donner la capacité de redevenir bouillant pour Dieu, etc., etc. Puis on peut commencer à ajouter. Puis si on est un peu dans la révélation, tout à coup, ça commence à couler. Vous savez, quand vous les prophètes, nous devrions prophétiser beaucoup plus. J'ai fait une expérience. J'étais en Afrique du Sud et j'ai enseigné dans une école pendant 3 jours. Je n'ai fait que de faire prophétiser les étudiants. Je leur ai enseigné des choses simples, puis ensuite j'ai commencé à les faire prophétiser, à leur apprendre. Ils apprennent très vite. Parce que tu sais écouter Dieu quand tu pries. Si je te dis, ma sœur, est-ce que tu veux bien prier? Tu vas te lever, tu vas prier. Je suis presque sûr. C'est pas un problème pour toi de prier. Et quand tu pries, tu cherches à prier selon les indications que Dieu te donne. Mais ça, c'est quelque chose que nous sommes habitués. Mais tu peux utiliser le même principe pour commencer à prophétiser. Ce que je viens de dire au frère, je ne l'ai pas préparé ce matin, puis écrit sur un papier, que je vais lui dire ça. J'étais en Afrique du Sud et j'ai enseigné sur la prophétie. Et ensuite, avec mon épouse, nous sommes partis une semaine de vacances au Cap. Au Cap Town. Et j'ai résidé dans une maison qui est très mythique. C'est la villa que Nelson Mandela utilisait quand il était dans la prison Paul Mort. J'ai résidé pendant une semaine à l'intérieur, l'enceinte de la prison. C'est pas dans la prison, mais c'est l'enceinte de la prison dans une magnifique villa. Et il y a là-bas une grande prison, il y a 7000 prisonniers. Et le directeur de la prison est un chrétien, il m'a dit, Werner, j'aimerais te faire visiter quelques-uns de mes prisonniers, et j'aimerais te faire visiter des gens qui sont avec des très lourdes peines et qui sont emprisonnés pour très très longtemps. Et ils sont seuls. Et je suis rentré dans les cellules, et parce que je venais de prophétiser pendant 3 jours avec des jeunes, il m'est aussi simple de commencer à prophétiser que de prier. Donc chez chacun des prisonniers que j'ai visités, j'ai dit, j'ai une parole de Dieu pour toi, est-ce que tu veux que je te donne une parole? Les gens disent, bien sûr, ils sont preneurs. Donc je leur ai parlé de la part de Dieu. Je suis arrivé dans la 3e ou la 4e cellule, je ne me rappelle plus exactement, un jeune homme. Je lui ai dit, tu es chrétien? Il me dit, non, je suis musulman. Je lui ai dit, j'ai une parole de Dieu pour toi, si tu veux l'entendre. Il me dit, oui, s'il te plaît. Et je commence à parler, je ne savais pas ce que j'allais lui dire. Quand je lui ai dit, j'ai une parole de Dieu pour toi, pour lui, je ne sais pas encore quoi. Je sens juste que Dieu me demande de lui parler. Donc je commence à parler sur sa vie. Je me rappelle pas ce que j'ai dit, mais j'ai parlé de ce qu'il avait amené en prison, ce qui s'était passé dans sa vie, sous révélation. Parce qu'à un moment donné, vous vous connectez à l'Esprit de Dieu, et l'Esprit de Dieu vous donne des indications. Puis vous les donnez par la foi, avec simplicité. Il faut faire de la sagesse, il ne faut pas que la personne on l'emprisonne avec nos paroles. Hein, parce qu'il y a des dangers, là, il faut un petit peu de sagesse. Je parle sur la vie de cette personne, je lui dis quelle est l'intention de Dieu pour sa vie. Et je m'arrête de prophétiser. Première question, il me dit, qui t'a parlé de moi? J'ai dit, personne m'a parlé de toi, je te connais pas. Il m'a dit, c'est impossible, parce que ce que tu viens de dire, il y a quelqu'un qui te l'a dit. J'ai dit, si quelqu'un me l'a dit, ça doit être Dieu. Parce que je te connais nullement, personne m'a parlé de toi, donc j'ai parlé sous inspiration. Il m'a dit, ce que vous avez dit me touche profondément. Il s'est jeté à genoux, il a dit, j'aimerais donner ma vie à Jésus-Christ. Je me suis dit, soit il est fou, soit il est très intelligent. J'ai dit, mais je t'ai pas parlé de Jésus, je lui ai pas dit qu'il donnait sa vie à Christ. J'ai dit, mais qu'est-ce qui t'arrive? Pourquoi tu veux donner ta vie à Jésus? Tu viens de me dire que t'es musulman. Et il me dit, parce que Dieu vient de me toucher très profondément. Et parce que j'ai une femme chrétienne, une épouse qui est chrétienne, qui m'a parlé de Dieu. Je l'ai méprisée, je l'ai malmenée à cause de sa foi. Mais aujourd'hui, je sais qu'il est vivant. Et j'aimerais le reconnaître dans ma vie comme sauveur et seigneur de ma vie. Et là, dans la cellule, il s'est converti, il a donné sa vie à Christ. Donc la parole prophétique, la parole que l'Esprit de Dieu veut que ça, vous vous y exprimez, des paroles de connaissance. On va aller un petit moment dans le ministère, hein, le temps passe. Donc il y a ces dons spirituels, j'ai pas le temps d'enseigner sur tous les dons, je vous donne juste une ou deux petites bribes par rapport à la prophétie. Il y a une deuxième chose que l'Esprit de Dieu veut faire en vous. Je l'ai déjà dit, si vous lisez 2 Corinthiens 13:13, c'est les dernières paroles de la deuxième épître aux Corinthiens, il est parlé de la communion au Saint-Esprit. Ayez une communion avec le Saint-Esprit. Si le Saint-Esprit habite en vous, et il habite en vous, mais vous devez le laisser, vous le diriger, vous conduire, il y a un fruit qui va naître de cela. Ça s'appelle le fruit de l'esprit. Galates 5:22. Car le fruit de l'esprit, c'est la joie, c'est l'amour, c'est la paix, c'est la douceur, c'est la bonté, c'est la maîtrise de soi, etc. Relisez Galates 5:22. Et dites ça à l'esprit, je veux que tu fasses ce travail en moi. Un fruit, ça ne pousse pas en 24 heures. Si je plante un arbre fruitier aujourd'hui, il ne va pas donner de fruits l'été prochain. Il donnera du fruit dans 2 ans. Donc soyons pas trop impatients. Soyons patients. Mais Saint-Esprit, je veux que tu produises un fruit en moi qui va commencer à glorifier Dieu. Et plus l'Esprit de Dieu va habiter en vous, plus vous allez voir que ce fruit de l'Esprit va grandir. Et je vous encourage à relire Galates 5:22. Parce que le Saint-Esprit aimerait habiter en vous. Davantage. Que ta volonté soit faite sur la terre comme elle est faite au ciel. Amen. On va rentrer dans un temps de ministère. Je vais inviter mon épouse à me rejoindre. Ça va? Voulez-vous lever?
Voilà.
Quand l'Esprit de Dieu habite en moi.
Merci.
Quand l'Esprit de Dieu habite en moi, je chante. Quand l'Esprit de Dieu habite en moi, je chante comme David. Je chante comme David. Je chante comme David. Quand l'Esprit de Dieu habite en moi, Quand l'Esprit de Dieu habite en moi, je danse comme un David. Je danse comme un David. Je danse comme un David. Quand l'Esprit de Dieu habite en moi, je prie comme un David. Quand l'Esprit de Dieu habite en moi, je prie comme un David. Je prie comme un David. Je prie comme un David. Quand l'Esprit de Dieu habite en moi, je loue comme un David. Quand l'Esprit de Dieu habite en moi, je loue comme un David. Je loue comme un David. Je loue comme un David.
Vous allez commencer à prophétiser sur vos vies. Qui c'est qui va commencer ? Aujourd'hui, qui c'est qui va commencer à parler dans sa vie, à prophétiser sur sa vie, à déclarer les promesses de Dieu, à croire. La foi vient de ce que l'on entend. Si vous, c'est rien qui sort, vous n'entendez rien. La foi vient de ce que tu entends. Si tu dis que tu vas venir fort, si tu remercies Dieu pour la force qu'il va te donner, tu vas commencer à croire en ces forces. Si tu dis, Seigneur, je n'y arrive pas, je suis nul, je ne vais jamais y arriver, tu vas devenir faible. Amen.